masterclass de France Culture. Aujourd'hui, Miguel Bonnefoy avec Marie Sorbier.
Nous ouvrons cette masterclass France Culture avec vous, Miguel Bonnefoy, en direct et en public à la Bibliothèque Nationale de France. En lisant, en écrivant, c'est une collection de masterclass littéraires en partenariat avec le Centre National du Livre. L'idée de cette rencontre, c'est de connaître mieux votre processus de création, les coulisses de votre écriture, ce qui se joue dans votre tête quand un roman advient, comment vous appréhendez la littérature et surtout, plus particulièrement, votre littérature. Alors, quelques éléments biographiques. Vous êtes né à Paris, votre mère est vénézuélienne et votre père chilien. Vous avez grandi entre le Portugal et le Venezuela tout en poursuivant votre cursus scolaire dans les lycées français. C'est pas un détail, c'est important, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Vous êtes romancier comme votre père, même si vos champs littéraires se distinguent. Vous avez déjà publié 9 ouvrages, salués par de nombreux prix et par l'affection des lecteurs. Et nous allons ici essayer de parcourir avec vous ce chemin littéraire que vous tracez depuis 2009. Je vous propose de partir ensemble pour un voyage d'une heure qui va nous permettre de découvrir des territoires lointains, des histoires de famille, des récits mythologiques, des rêves qui parfois deviennent réalité, mais surtout une langue, la vôtre, Miguel Bonnefoy, et une phrase colorée, baroque et pleine de saveurs. Alors pour commencer ces masterclass, la tradition veut que l'on s'interroge sur la vocation de l'écrivain que l'on reçoit. Si ce mot vient du champ lexical religieux, il porte en lui, étymologiquement, cette belle notion d'appel. Avez-vous, Miguel Bonnefoy, été appelé vers la littérature, diriez-vous qu'écrire est une vocation ?
Une très belle question. En effet, est-ce qu'écrire est une vocation ? Est-ce qu'écrire est un appel ? Non, cette idée de vocare, qui a donné bien sûr vocal, c'était autrefois naturellement l'appel monastique, puisqu'on se sentait appelé par des forces supérieures pour entrer dans les ordres. Et puis, finalement, peut-être par porosité, par écho, ça peut également aller vers l'art. Naturellement, mon père écrit. Et je pense, par mimétisme, par imitation, j'ai voulu suivre le chemin de cet homme que j'admire. Lui a un travail qui est davantage politique, davantage dans la littérature engagée, puisqu'il a mis sa littérature au service d'un combat contre la dictature de Pinochet à l'époque, puisque mon père est chilien, il avait été torturé et envoyé en prison en 73, puisqu'il faisait partie du MIR, du mouvement de gauche révolutionnaire, el Movimiento de Izquierda Revolucionario. Et donc, en arrivant en France, en arrivant et en Europe, il a décidé d'écrire comme un système de cathartique pour pouvoir se libérer un petit peu de ses émotions et faire passer sa noirceur, sa douleur, ses abîmes dans ceux de ses personnages. Et à partir de là, tout son travail s'est ramifié autour de cette littérature engagée. Peut-être moi, à mon tour, j'ai voulu m'éloigner un petit peu de cet appel puisque je n'avais pas vécu les mêmes choses que lui. Et j'ai eu une vie différente puisque j'ai beaucoup bougé de pays en pays, de frontière en frontière, de capitale en capitale. Ma mère étant diplomate, j'ai eu la vie typique de tout enfant de diplomate. Et ces déracinements perpétuels, ces mouvements perpétuels, ces voyages perpétuels m'ont créé un besoin d'immobilité, paradoxalement. On dit bien entendu souvent que la littérature est un voyage, que la littérature est l'ailleurs. Et oui, bien sûr, toutefois, paradoxalement, presque dans un système de contradiction, presque oxymorique, j'ai parfois l'impression, ou du moins c'est ce qui m'est arrivé quand j'étais enfant, que la littérature était l'immobilité même, le sédentarisme, puisque là où j'allais, dans les différents pays, dans les différentes langues, dans les différentes cultures, la première page de 100 ans de solitude, elle ne change pas. Et lorsque je me retrouvais ici et là, égaré, perdu, dans des codes que je ne comprenais pas, pouvoir revenir à certaines pages, pouvoir revenir à certains poèmes, pouvoir relire certains discours de William Urpina, alors tout à coup me calmer, me tranquilliser, car ça, que je le lise à Caracas, que je le lise à Johannesburg, que je le lise à Moscou, que je le lise à Buenos Aires, ça allait être toujours le même, ici ou là, hier comme aujourd'hui. Et c'était important pour moi de retrouver cette immobilité. Donc dans ce sens, sans doute, la littérature est un appel avec cette vieille idée d'abord de Samuel Beckett. Quand on lui demande pourquoi écrivez-vous, il dit « je ne suis bon qu'à ça ». De la même manière, lorsque Garcia Marquez lui aussi dit « eh bien, un écrivain n'est pas écrivain par le mérite de ses pages, mais simplement parce qu'il a le malheur de ne pouvoir faire autre chose ». Eh bien, sans doute, j'ai ressenti aussi cette espèce de nécessité biologique et je me suis rendu compte que si on m'enlevait l'écriture, je serais sans doute triste. Et j'ai encore tout à apprendre, tout à écrire. Tout ce que j'ai écrit est des brouillons, est imparfait, et encore à travailler, et j'espère qu'on pourra parler tout à l'heure des rouages, des mécanismes de l'écriture, je les cherche encore, et vous avez devant vous un homme qui est riche de ses propres doutes, je ne sais pas grand-chose. Et chaque livre de plus est un livre de moins dans ce grand chemin pour un jour atteindre une bonne page. Et s'il reste une seule bonne page de tous les livres que tu as écrits, bien mon ami, c'est un succès immense.
Vous écrivez en français ? Exclusivement pour l'instant. Pourtant, ce n'est pas votre langue maternelle. D'où vient votre envie d'écrire justement en français ?
Oui, c'est sans doute d'abord pour des affaires logistiques, c'est-à-dire comme j'avais beaucoup bougé lors de mon enfance, mes parents m'ont mis dans les lycées français à l'étranger pour pouvoir avoir une continuité au niveau de l'éducation. Et on m'a appris à penser en français. On m'a appris à passer d'une idée abstraite pour pouvoir la mettre en mots. On m'a proposé de passer par les labyrinthes du français. L'espagnol, le portugais, plus tard l'italien, ont été des langues qui étaient les langues orales, qui étaient les langues de la récré, qui étaient les langues de l'amitié, qui étaient les langues peut-être davantage ludiques. Et le français était tout de suite la langue de l'algèbre, la langue des mathématiques, la langue de l'histoire, et également la langue d'un pays que je ne connaissais pas. Il y a plus de gens qui parlent français hors de France qu'en France. Le français n'appartient pas à la France, et heureusement. Et c'est peut-être ce rayonnement, cette diversité, c'est justement peut-être ce fait de diluer, de distiller la langue autant qui lui donne sa richesse la plus profonde et la plus grande. Et moi, j'ai observé ici et là, en étant hors de France et en parlant avec des gens qui, eux, parlaient français ou qui aimaient le français, qui étaient des francophiles, ils finissaient parfois par mieux parler le français que les Français eux-mêmes. Comme des espèces de convertis de la langue. Il y a des convertis des religions qui, lorsqu'ils arrivent tard dans une religion, finissent par connaître mieux les prières, mieux les litanies, finissent par être plus sévères que les autres, plus intransigeants, plus radicaux, parce qu'ils ne sont pas nés dedans et qu'ils l'ont adopté avec le temps. Même spectacle pour la langue. Lorsqu'un étranger apprend une nouvelle langue, il finit par être plus rigoureux, il finit par être plus précis, plus exact et également plus intransigeant s'il y a tout de suite une erreur. Et brusquement, il donne à la langue certains or qu'elle avait peut-être perdu avec la souillure normale et habituelle de la langue de tous les jours. Il finit par lui sortir de l'abandon des mots qui sont tombés en désuétude. Il dépoussière la langue, en quelque sorte. Et ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé ici et là et que j'ai également beaucoup retrouvé dans les écrivains de ce qu'on a appelé la négritude. Lorsque la colonie française est arrivée ici et là et qu'elle a imposé la langue, non, avec cette belle phrase « Quand ils sont venus, ils avaient la langue, on avait la terre. Ils nous ont appris à prier les yeux fermés. Quand on les a ouverts, ils avaient la terre et on avait la langue. » Eh bien, peut-être en prenant cette langue de Molière, en prenant cette langue de Rabelais, il y a eu des Léopold Sédar Senghor, il y a eu des Aimé Césaire, il y a eu des Damas, il y a eu des Diop, il y a eu des Kuruma qui tout à coup ont rendu, 3 siècles plus tard, la langue avec cette fois-ci des nouveaux fruits, des nouveaux feuillages, une nouvelle luxure, une nouvelle écorce qu'ils avaient peut-être, avec le temps, un petit peu perdue, ce qui est tout à fait naturel. Il est arrivé la même chose en espagnol, puisqu'on a déraciné l'espagnol pour le replanter en Amérique latine en faisant un génocide linguistique de toutes les langues indigènes. Et tout à coup, en prenant cette langue, après l'avoir laissée macérer dans les cuves de l'Amérique latine pendant presque 5 siècles, il y a eu le boom latino-américain et des auteurs comme César Vallejo, comme Cortázar, comme García Márquez, comme Alejo Carpentier, comme Carlos Fuente, qui tout à coup sont revenus en redonnant à l'espagnol quelque chose de fascinant que peut-être la couronne espagnole avait oublié avec le temps. Si bien que lorsque Rubén Darío, le grand écrivain de Nicaragua, a publié Azul, magnifique recueil de poèmes, les Espagnols, les plus grands professeurs émérites des universités et des grandes coupoles de la Real Academia Española, disaient en lisant ce livre « Je redécouvre ma propre langue ». Eh bien, si aujourd'hui j'ai choisi le français, c'est peut-être par fascination aussi de ses porosités, de ses allers-retours, de ses échos, de ses passerelles, de ses ponts qui se font dans différentes traditions, dans ses syncrétismes. Et je trouve qu'il est tellement plus intéressant d'entrer dans une langue par la petite porte, en quelque sorte, que directement eh bien, par le portail d'entrée.
Et est-ce que pour écrire en français, vous avez besoin de lire en français ou est-ce que vous lisez aussi en espagnol et dans les autres langues que vous connaissez?
Ça, c'est une question qui est très intéressante, fascinante et absolument intime. mais je vous répondrai avec beaucoup d'honnêteté, parce que de toute façon, on est en petit comité, non ? Et on est entre amis. Eh bien, figurez-vous que je commence, bien entendu, à lire en espagnol lorsque j'ai besoin de champs lexicaux. Si, par exemple, je suis en train d'écrire sur des champs de canne à sucre, si je suis en train d'écrire sur la jungle guyanaise, si, par exemple, je suis en train de travailler sur El Llano vénézuélien, il va me falloir des livres qui sont dans les champs lexicaux avec le vocabulaire et avec les terminologies de ce lieu en espagnol. Il m'est arrivé ça il n'y a pas longtemps, tombant sur un magnifique roman de Elena Garro qui s'appelle Los recuerdos del porvenir, les souvenirs de l'avenir. Elena Garro était la femme de Octavio Paz et elle a écrit Los recuerdos del porvenir 4 ans avant Cent ans de solitude qu'elle a publié au Mexique. García Márquez était à ce moment-là au Mexique, donc il a sans doute lu Elena Garro. Eh bien, il n'y a pas longtemps, en faisant des recherches justement sur cette littérature comme ça, l'éventail de la littérature latino-américaine, je tombe sur Elena Garro, je lis Los recuerdos del porvenir, que j'ai trouvé absolument fascinant, avec énormément de correspondances avec le travail de García Márquez, et je dois reconnaître, et je le dis avec une honte terrible, que j'ai mis une sorte de cagoule, je suis allé dans la librairie et je l'ai acheté en français également, et non pas pour le relire et pour savoir qu'est-ce qui allait se passer plus tard, mais également pouvoir voir comment le traducteur, avec l'admiration que je porte pour la traduction et pour les traducteurs, était parvenu à retravailler toute la structure de ces phrases si complexes, comment ils avaient travaillé le squelette de la phrase, comment ils avaient retapé cette espèce de rythme luxuriant que pouvait avoir Elena Garro, mais cette fois-ci avec les codes et la rigueur française. Et j'ai été surpris de voir que, de temps en temps, une phrase longue avec plusieurs relatives était coupée en deux, parce qu'on aurait vu, peut-être en français, une longueur, alors qu'en espagnol, au contraire, on y voit une sorte de torrent, comme ça, de mots.
Mais justement, sur ces différences intrinsèques à chacune des langues, est-ce que vous pensez que votre style serait différent si vous écriviez dans une autre langue? Que vous permettrait l'espagnol que vous ne permet pas le français, par exemple?
J'en suis absolument convaincu, si bien que je ne traduis pas mes propres livres, alors que c'est ma langue maternelle. Je les écris directement en français, peut-être que je les pense en espagnol, j'ai le champ lexical en espagnol, j'essaye de le traduire ici et là. Je comprends bien sûr quels sont les codes de la littérature française et j'essaye à mon tour, humblement, comme je peux, de m'épauler, de m'accouder à ça et de voir s'il existe une sorte de juste milieu, une frontière délicate entre les deux où je pourrais peut-être me placer. Mais j'observe également que lorsque un traducteur traduit mon livre en espagnol et me l'envoie à la maison, et moi je l'ouvre et je le relis, eh bien je ne reconnais pas du tout mon rythme. Et je trouve que le livre est bien meilleur grâce à ce traducteur. Combien ? Si bien que je continue à lire le livre pour voir qu'est-ce qui se passe à la fin. Ah, c'est, non ? Parce que... Et je trouve du coup assez beau justement cette espèce de changement. Et également le travail des traducteurs qui non seulement traduisent d'un bois à un autre, d'une langue à une autre, pour faire un système de jeu de passerelles, mais également dans les codes d'une nouvelle langue. Et ce sont réellement des créateurs, ce sont réellement des écrivains. Si par exemple on prend, je ne sais pas, un vers de Prévert qui me vient comme ça à l'esprit, « De deux choses l'une, l'autre c'est le soleil ». Comment traduire ça ? Tu as deux options. Soit tu le traduis à un niveau littéraire, soit en effet tu décides de prendre une autre image, une autre métaphore qui n'a rien à voir avec la lune, le soleil, etc., en trouvant dans cette nouvelle langue, dans les codes, dans le creuset de cette nouvelle langue, un nouveau jeu de mots. Et immédiatement, ça donne au traducteur de cette deuxième école, ça lui donne un lyrisme, ça lui donne une force, ça lui donne aussi un aspect de démiurge qui va au-delà de l'écrivain, puisqu'il est en train de se tenir face à l'écrivain en lui disant « je ne vais pas te trahir », non ? Traducteur et traditeur, et je ne vais pas te trahir, mais je vais au contraire te prendre par la main et presque améliorer le texte. Il y a également certaines traductions qui ont montré qu'elles pouvaient être meilleures que le texte. Je pense aux Wild Palms de Faulkner, les palmiers sauvages de Faulkner. Quand il est sorti, on a jugé que c'était peut-être un livre moins bon que les autres livres du très grand maître Faulkner. Mais lorsque Jorge Luis Borges, l'écrivain argentin, a décidé de prendre ce livre et de le traduire en espagnol, on a hurlé au génie. Si bien qu'il y a des gens qui essaient de retrouver cette traduction en espagnol pour le retraduire en anglais et donc améliorer le texte. Donc c'est là, en effet, où je trouve très beau de pouvoir travailler avec des traducteurs qui, eux, au contraire, peuvent t'aiguillonner sur certaines choses que tu n'avais pas vues.
Alors vous écrivez en français, mais vous écrivez surtout sur des pays, le Chili dans Héritage ou le Venezuela dans Jungle par exemple, dont la langue n'est pas le français mais l'espagnol. Mmh. Est-ce que cette distance vous permet de voir de plus loin, de garder justement une distance nécessaire pour pouvoir raconter les histoires que vous avez à raconter ?
Je pense que cette distance peut être à la fois une grandeur et à la fois une perte. Une grandeur parce qu'elle t'oblige à donner davantage de baroque parfois à une phrase en français, alors que peut-être l'espagnol serait déjà parvenu à la mettre, puisqu'on parle dans un territoire vénézuélien. Je donne un exemple, parce qu'il est parfois plus simple de passer par l'anecdote que par la théorie, non, par l'image. Si vous prenez par exemple le mot guacamaya, espèce de magnifique oiseau de trois couleurs qui vit 100 ans, grand, puissant, qui lorsqu'il passe comme ça par le ciel, il laisse une sorte de rayonnement de trois couleurs, et dont on dit que lorsqu'il se pose sur une branche, c'est comme si toute la forêt se penchait avec lui. À l'intérieur du mot guacamaya, dans le ventre phonétique de ce mot, il y a déjà l'animal. En français, c'est ara. Immédiatement, ça a moins d'épaisseur, ça a moins de relief. C'est tout à fait naturel, puisque peut-être justement, ce n'est pas un oiseau qui est en France, donc on a donné un autre nom. Et lorsqu'on veut décrire, ou lorsque je veux décrire l'ara, eh bien je vais prendre davantage de temps, peut-être, en français, pour pouvoir essayer de lui donner un peu plus de pulpe autour du mot et qu'il finisse par ressembler à guacamaya. Et donc, ça va me donner le temps de faire une phrase un peu plus longue et de travailler aussitôt la phrase. Quelque chose que je n'aurais pas fait si j'avais écrit directement en espagnol, puisqu'il m'aurait suffi de dire « la guacamaya cruzaba el cielo », non ? L'ara passait par le ciel. Donc il y a de temps en temps des forces que te donne justement cette distance avec la langue, qui est celle justement de développer davantage. La perte, naturellement, c'est, et ça j'en parlais avec mon ami Alain Bamankou, ou également avec Mohamed Bougarsar, qui eux sont des personnes qui ont également plusieurs langues dans leur cœur et dans leur tête, et qu'ils essayent justement de jongler avec, que lorsqu'il y a certaines expressions, certaines locutions délicieuses, dans des dialectes africains ou en espagnol, où typiquement ma mère vient d'une ville qui s'appelle Maracaibo, qui a aussi un éventail de mots particuliers, très, très propres à cet endroit, eh bien, lorsqu'on les traduit directement en français, on perd une saveur. C'est normal, naturellement. Et en perdant cette saveur, on se rend compte qu'on ne peut pas tout à fait la reprendre. De la même manière que si demain, un écrivain latino-américain veut écrire sur la France, il perdra aussi des saveurs qu'il y a dans la langue française et qu'on ne retrouvera pas dans sa traduction en espagnol. C'est à la fois une perte et une grandeur, et cet aller-retour, ce va-et-vient, a quelque chose de fascinant comme ça. Ce sont des navires chargés de cannelle et de fleurs.
Si vous voulez bien, on va essayer d'entrer dans votre processus créatif, dans la cuisine, comment un écrivain écrit. Alors, je m'excuse d'avance si les questions vont être également un peu intimes, mais vous allez nous dire d'où vient votre envie d'écrire. Est-ce que c'est une urgence qui vous anime, une nécessité, ou est-ce que c'est avant tout une construction ?
Je dois reconnaître qu'il y a, bien sûr, et je pense que beaucoup d'écrivains auront la même réponse, mon cas n'est pas du tout extraordinaire, une sorte de nécessité biologique à écrire. Dans les lettres, un jeune poète, Rainer Maria Rilke, pose la question en demandant au jeune militaire, non, à qui il écrit, en lui disant « Pose-toi cette question dans l'intimité et dans l'obscurité de ta chambre. Ne la réponds pas dans la prochaine lettre. Vraiment, pose-toi la question à l'intérieur de toi-même. Si on t'enlevait la plume, si on t'interdisait d'écrire, est-ce que tu déciderais de mourir ou de continuer à vivre ? Ne me la réponds pas tout de suite. Il dit « Réponds-toi. » Vraiment, dans l'honnêteté du face-à-face avec toi-même. Et alors, tu sauras, non ? Si, selon lui, selon Rainer Maria Rilke, tu es un poète ou pas. Et je trouve la question très belle, parce que c'est une vraie question à se poser intimement. Parce que si on t'enlevait la plume, est-ce que tu continuerais à vivre ? Moi, je pense qu'il y a bien d'autres choses qu'on peut continuer à faire sans écrire, et que des gens vivent très heureux sans écriture. Moi, je pense que je tomberais dans une forme de tristesse, pour une raison très simple, c'est qu'on m'enlèverait peut-être la grille de perception que j'ai du monde. Peut-être, et l'écriture, mais comme beaucoup de disciplines artistiques, encore une fois, la littérature n'est pas du tout un cas extraordinaire, ça permet parfois de donner de l'ordre dans le grand chaos du monde, dans les bruits confus de tout ce qu'on a au quotidien. Parfois, la littérature te permet de faire tout simplement un filtre, te permet de donner une sorte de cadre où tu dis « ceci, je peux l'utiliser comme matière pour pouvoir faire une scène, ceci peut être quelque chose d'intéressant à creuser pour pouvoir le marier avec quelque chose d'autre, et aussitôt le monde devient une sorte de gigantesque algèbre, une sorte de grande arithmétique, une mathématique, où tout peut être composé et joué en l'entrelaçant pour en faire de nouvelles étoffes, de faire de nouvelles textures, de nouveaux textes, c'est-à-dire prendre des éléments qui sont indépendants les uns des autres, autonomes, qui n'ont rien à voir. Une histoire qu'on te raconte ici-là, une musique que tu écoutes, et une pensée secrète que tu as, une blague au détour d'un café avec un ami. Et ces quatre éléments qui n'ont rien à voir, eh bien, en les mettant ensemble, en les alignant ensemble, tu y vois, là, un texte. Et alors, ça te donne tout simplement un sens à la vie. Je pense en effet qu'aujourd'hui, bien sûr qu'il y a une forme de construction, puisque tout est construction sociale, les livres sont construction sociale, ce que nous sommes en train de faire est également une construction sociale. La langue, l'alphabet, le système de la littérature est une construction sociale, donc il y a une partie construction. Et d'un autre côté, il y a un instinct presque de survie en disant « si on m'enlève ça, on m'enlève mon équation pour pouvoir saisir ce qu'il se passe autour de moi ». Le saisir bien ou le saisir mal, ça c'est pas à moi de le juger, tu peux imaginer. Mais au moins avoir l'impression de qu'on est en train de comprendre plus ou moins tout ce qui vient.
Alors vous parlez d'ordre et de chaos. Vos romans ont un point commun. C'est une construction narrative très pensée. On a la sensation quand on vous lit qu'une architecture complexe, ramifiée, soutient vos histoires. Mais elle ne se montre pas comme telle. Elle est souterraine. Ce qui se voit plutôt, c'est une limpidité dans la lecture. Le lecteur vous suit, s'immerge dans des pays et des histoires de vies inconnues sans aucune difficulté. Comment travaillez-vous en amont pour à la fois créer ce squelette, cette architecture, et le faire disparaître?
Je trouve que vous le dites avec beaucoup d'exactitude, avec beaucoup de précision, et avec beaucoup de justesse. C'est exactement ça ce que j'essaye de faire. Encore une fois, je ne suis vraiment pas sûr d'y parvenir, mais c'est exactement ce que j'essaie de faire. Je mets un temps, un zèle et une sueur énorme pour chaque page, pour chaque phrase. C'est relu 10 000 fois et je reviens sans cesse à l'ouvrage. Je ne suis jamais réellement satisfait de ce que j'ai fait et la seule chose qui me permet de temps en temps de me rendre compte que ça marche, c'est quand tout à coup le texte s'échappe de la structure et où je ne vois plus tout à coup toutes les béquilles. Il y a cette belle image que Sartre donne dans Qu'est-ce la littérature en disant qu'un texte est comme une vitre qui passe devant le soleil. Il faut qu'on continue à voir le soleil sans se rendre compte que la vitre et le texte, avec sa langue, avec ses erreurs, avec ses trébuchements, avec ses vitesses, avec ses urgences, ses outrances, ses reculs, comme ça. Et plus on a travaillé le texte, plus on a poli le texte, plus on s'est assuré qu'il y a un souffle, qu'il y a un rythme, qu'il y a un ton qui est toujours le même, plus alors la vitre peut continuer à passer sans éraflure. Mais tout à coup, soudain, s'il y a une petite éraflure, c'est-à-dire un trébuchement au niveau de la page, non seulement on va voir qu'il y a un détail sur la vitre, mais on va se souvenir que depuis tout à l'heure, il y a une vitre qui est en train de passer devant le soleil et on ne verra plus qu'elle. Je travaille énormément justement pour pouvoir éliminer toutes ces petites éraflures et qu'on ne voit pas la vitre. Comme lorsque tu es au cinéma, que tu es en train de voir un film, ça fait 2 heures que tu es là, que finalement, enfin, le personnage principal dit « je t'aime » à la femme. Ils sont sous la pluie, ils sont tous les deux mouillés et ce baiser est sublime. Et là, on voit la perche comme ça qui arrive. Là, tu dis « bah non, mon ami, tu m'as cassé la magie ». Non ? Même spectacle, en effet, avec le texte. Dès que tout à coup tu as ce trébuchement, soit dans la structure, soit une répétition, soit une longueur, soit quelque chose qui va mal, soit une facilité au niveau de ton coup d'épée, eh bien alors immédiatement c'est la perche qui arrive et on rompt la magie et on voit l'écrivain derrière sa table de travail en train d'essayer de composer une magie. On voit l'illusionniste en train de mettre le lapin dans le chapeau, vous voyez ?
Et ce que vous dites quand vous parlez de vos phrases, j'ai l'impression, c'est que vous enlevez plutôt que vous ajoutez.
Alors, je dois reconnaître que je ne fais pas partie de ces écrivains qui parviennent à s'asseoir, à écrire 10 pages d'un coup, qui sont bien sûr imparfaites, et qui, avec le temps, finissent par raboter pour enlever. Je suis très lent en écriture. C'est-à-dire que chaque page doit être plus ou moins satisfaisante pour que je continue à écrire la précédente. Je n'écris pas non plus d'une façon chronologique, j'écris par fragments. L'écriture, à mes yeux, n'est qu'un immense puzzle. En ce moment, par exemple, j'ai une scène d'accouchement en tête et qui me prend depuis 3 semaines la tête avec cette femme qui est en train d'accoucher et avec une manifestation dans la rue dehors pendant le 23 janvier 1958 où les gens hurlaient « Cayó el dictador », le dictateur est tombé, « Viva Venezuela, viva Venezuela, viva Venezuela ». Et ce « Viva Venezuela » qui monte, si bien qu'on n'entend plus les cris de cette femme qui pousse, on n'entend que « Viva Venezuela ». Et lorsque l'enfant naît, eh bien, comment allez-vous appeler l'enfant, madame ? Elle dit, je l'appellerai Venezuela. Cette scène me prend la tête et je prends énormément de temps à l'écrire dans un document à part. Et je sais que je vais l'intégrer à un moment dans la sculpture complexe que je suis en train de faire, mais où il y a énormément de trous. C'est comme si je mettais comme ça les colonnes d'abord, avant de constituer les cloisons et les parois. Mais je prends encore une fois beaucoup de temps pour écrire, et j'ai une très mauvaise habitude qui est celle de allonger mes phrases, peut-être par peur, peut-être par jeunesse, par immaturité, de me cacher de la simplicité et de me dire si je donne des adjectifs complexes à la phrase, alors tout à coup ça va lui donner de la hauteur, non ? Ça va lui donner une sorte de lumière. Si je dois écrire que la maison était bleue, alors je vais aller sur le trésor de la langue française, je vais chercher bleu, je vais tomber sur bleui, bleuté, bleuâtre, azulé, joue. Et alors ma phrase sera « La maison était bleuie avec des tons bleuâtres et le soleil donnait sur elle les tons qu'on retrouve dans la porcelaine des azulejos de Lisbonne. » Phrase est d'une longueur insupportable, non ? Et j'ai l'impression qu'il me manque encore tant de pages, tant d'encre et tant d'années pour un jour pouvoir écrire si difficilement « La maison était bleue ».
Alors, on parlait de la construction d'un livre, mais il y a aussi une construction plus méta. J'ai l'impression qu'il y a des passerelles entre vos livres, comme si un grand ordonnateur avait présidé à la conception de chacun. Par exemple, la machine solaire qu'invente le personnage de votre dernier roman se nomme comme le personnage de votre premier roman, Octavio, tout comme Michel René, qui apparaît dans Héritage et dans L'Inventeur. Là, vous venez de citer cette scène d'accouchement que vous êtes en train d'écrire. L'enfant s'appelle Venezuela, comme le personnage également du voyage d'Octavio. Absolument. Est-ce un jeu pour vous de créer ces traboules entre vos récits? Pourquoi toutes ces correspondances?
Et absolument, j'aime beaucoup cette idée des galeries souterraines. Encore une fois, je n'ai rien inventé, mon cas n'a rien d'unique, puisqu'on retrouve dans énormément d'écrivains, tantôt du 19e, tantôt du 20e, des écrivains qui écrivent aujourd'hui. Je pense à Pierre Lemaître qui fait beaucoup ça, je pense à mon ami Pierre Ducrozet aussi qui fait beaucoup de clins d'œil entre ses livres, avec des personnages qui reviennent et qui permettent de constituer un territoire. Il me semble que Deleuze disait « constituer un territoire est la naissance de l'art ». Comme avec cette idée qu'en un seul livre, en une seule histoire, avec un seul personnage, peut-être tu ne peux pas embrasser toute l'identité de ce que tu as envie de dire. Et tu as besoin de temps en temps eh bien, de poser de nouvelles pierres, de nouvelles dalles pour pouvoir avancer dans un autre royaume. Moi, j'observe que je ne suis pas parvenu à tout dire de ce que je voulais dire avec le voyage d'Octavio. Il y avait le personnage d'Octavio, il y avait ceux de Venezuela, et là, je m'excuse d'être peut-être un petit peu abstrait en rentrant dans les livres, mais j'essaierai de rentrer le moins possible, non, pour ne pas ennuyer l'Assemblée. Et j'avais besoin, d'une certaine manière, de laisser quelques pierres d'attente, ici et là, pour pouvoir mettre des immeubles plus tard. Il y a dans les constructions, de temps en temps, des pierres qu'on laisse dans les coins des immeubles pour pouvoir ensuite encastrer un autre immeuble. Et ces pierres s'appellent des pierres d'attente. Elles attendent un immeuble mitoyen pour pouvoir créer une même jointure. Et bien, de la même manière, dans mes livres, ces pierres d'attente, en train de les poser ici et là, bien sûr qu'il y a un aspect ludique, bien entendu qu'il y a un jeu, puisque je sais qu'en laissant, par exemple, cette ficelle et cette ficelle, ça me donnera l'occasion de développer tel et tel personnage. Je le soupçonne, le personnage, non ? Avec une sorte d'intuition un peu fébrile, un peu secrète, et je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'il va être. Mais il y a aussi une grande construction que, humblement, j'essaie de faire depuis longtemps dans un arbre généalogique que j'ai à la maison, avec différents livres qui doivent venir et qui doivent compléter tous les autres livres. Ça prend du temps, naturellement, parce que ça demande un travail énorme de correspondance et un travail, justement, de petites galeries qui se connectent, non, de couloirs, comme ça, de corridors, pour être sûr de ne pas perdre des personnages qui seraient peut-être morts, alors que le livre se passe dans un autre temps. Et il m'est arrivé quelques fois, par exemple avec le personnage du chien Oro, de le mettre dans certains livres ici et là. Et mon éditrice, ensuite, en calculant l'âge du chien, elle m'avait dit « Le chien a 120 ans et à la fin du livre, donc il va falloir qu'on le tue à un moment ou un autre, non, dans un livre ». Et tout à coup, naturellement, que tu peux avoir des problèmes, mais c'est assez inspirant de se rendre compte qu'on peut tout à coup reprendre des personnages qui sont restés en suspens, qui vont avoir une importance ici et là, et qui parfois donnent la bonne charge pour que le livre soit encore meilleur. Ça donne également la promesse d'une scène, c'est-à-dire lorsque je sais que je vais écrire, développer le personnage de Babel Bracamonte qui me tourne en tête depuis longtemps et je ne sais pas exactement comment il sera, où il sera et quel sera son rôle, mais comme il a déjà été annoncé dans d'autres livres, je me dis quel bonheur de savoir que j'ai un ami à venir, non ? J'ai encore une rencontre à faire à un moment ou un autre et il apparaîtra. Et ça te donne en quelque sorte la première lancée d'une arche en attendant la construction de l'autre coin, pour pouvoir en faire un pont.
Vos livres, ils sont souvent hybrides, ils sont composés de différentes matières. On a des sagas familiales, il y a des éléments autobiographiques, de la fiction, des récits de voyage, mais il y a aussi tout un travail documentaire. Comment préparez-vous ces voyages littéraires ? Est-ce qu'il y a de longues périodes de documentation, des lectures ? Comment faites-vous vos recherches, puisque nous sommes ici à la BNF ?
Oui, absolument. Oui, d'ailleurs, je suis très, très touché d'être ici, figurez-vous, car il y a exactement 10 ans, mais presque jour pour jour, je me suis installé à la BNF en haut de jardin dans la salle littérature étrangère pour pouvoir écrire les premières lignes du Voyage d'Octavio, qui est mon premier roman. C'est le 1er avril 2013. Et le 5 mars 2013, moi j'habitais au Venezuela, Hugo Chavez, le président de la République à l'époque, était mort. Et peut-être vous avez entendu parler de lui. Et j'ai gagné un prix littéraire plus ou moins à ce moment-là, en France. Et donc, on m'avait invité à venir en France. Et j'ai décidé de rester. Et le 1er avril 2013, je me suis installé à la BNF pour écrire les premières pages d'Octavio. Et là, on est en avril 2023. Donc, c'est presque exactement 10 ans, jour pour jour. Jamais je n'aurais imaginé, non, d'être ici dans l'auditorium, puisque j'étais. Et donc, quelque part, il y a quelque chose d'assez symbolique et qui est très beau.
Encore un pont ou une arche.
Et bravo, exactement. Encore un pont, encore une arche. Vous avez tout à fait raison. Et tout ça pour vous dire, eh bien, figurez-vous que...
Sur le travail documentaire.
Sur le travail documentaire, eh bien, je passe beaucoup de temps à faire des livres de prévision avant d'écrire. Donc, par exemple, si je dois écrire une scène d'un combat de centaures, alors je vais prendre le temps d'aller lire sur les centaures pour être sûr d'avoir tous les vocabulaires et toute la terminologie. Encore une fois, lorsque le premier G est fait, puisqu'il est porté par tout ce vocabulaire, il devient dense, un peu mielleux, sablonneux, difficile à avancer, parce qu'il est chargé de toute une quantité de mots qui ne font pas partie des mots qui se diluent facilement dans la phrase. Mais ça donne une sorte de première base forte avec tous les codes du genre. Et petit à petit, le travail de polir et celui d'alléger le texte le plus possible pour pouvoir lui donner une forme d'équilibre, une forme de balance. Également, lorsque je me retrouve, par exemple, à écrire sur quelque chose qui a réellement existé, je pense à mon dernier roman qui s'appelle L'Inventeur, qui est sur le pionnier de l'énergie solaire, sur Augustin Mouchot. Eh bien, j'avais fait énormément de recherches au niveau de Gallica.fr, qui est la bibliothèque numérique de la BNF, où sont des périodiques des siècles français, où on retrouve tous les journaux, tous les magazines, tous les articles, tout ce qui a été écrit, un moment ou un autre, qui n'est pas, disons, de la littérature, se retrouve sur Gallica.fr. Et là, avec un moteur de recherche, ça m'a permis de avoir une idée très ample de tout ce qui s'écrivait à cette époque et de quel est aussi le ton, non, quelle est la langue qu'on utilisait à ce moment-là et quelles sont justement les ficelles que je pouvais tirer. Donc il y a énormément de travail préparatoire avant et il est à la fois bon et mauvais, c'est-à-dire en gardant les proportions, si on pense que Gustave Flaubert se vantait d'avoir lu 1700 livres pour en écrire qu'un seul, pour écrire Bouvard et Pécuchet, si bien que Théophile Gautier disait de lui « il a abattu une forêt pour construire une boîte d'allumettes », eh bien lui s'était retrouvé en effet à écrire, et à lire et à travailler énormément pour finalement arriver à quelque chose qui... Ça te fait perdre parfois un temps fou. En ce moment, je développe un personnage de révolutionnaire dans la Sierra pendant les années 60 au Venezuela. Et je suis en train de lire énormément de livres de témoignages sur ces révolutionnaires, sur ces guerrilleros. Et tout à coup, j'observe que sur tout ce que je lis, sur les heures que je passe à lire, je ne vais garder peut-être que 3 phrases du livre. Alors peut-être qu'elles seront belles, ces 3 phrases, mais ça m'aura demandé un temps fou pour arriver simplement à écrire ça. Pour qu'ensuite, un an plus tard, lorsque tu envoies le manuscrit à ta maison d'édition, que ton éditrice dise « Ah, tu vois, cette phrase, elle n'est pas super, peut-être on l'enlève, non ?» Tu dis « Ouais, non, imagine-toi, c'est, non ?»
Donc, là, vous évoquez la recherche livresque dans les livres. Est-ce qu'il y a aussi une part de la recherche qui est orale, qui serait basée sur des témoignages ou des histoires que l'on vous raconte ?
Absolument. Il y avait eu pour héritage, naturellement, tout un travail que j'avais fait au niveau de la mythologie familiale, puisque fatalement, il avait fallu que je revienne sur l'histoire de ma grand-mère, de mon père, de mes ancêtres. Et donc, comme dans toute famille, la mienne n'a absolument rien d'incroyable, il y a des récits collectifs, des fables, des contes qui sont plus ou moins vrais, non ? Et au fond, qu'importe, comme disent les Italiens, se non è vero è ben trovato, non ? Si ce n'est pas vrai, c'est bien trouvé. Eh bien, on a tous dans les familles, non ? Certaines histoires qui reviennent sans cesse et qui deviennent naturellement de la matière. Et ça, tu essayes de le marier avec un livre d'un essai sur l'immigration française au Chili, alors ça te donne une sorte de poids historique et à côté un poids un peu plus léger qui est celui du récit familial et à côté de ça la tentation de la fiction et avec ces 3 ficelles tu essaies de faire une tresse non, pour pouvoir composer ton cadre romanesque.
Mais est-ce qu'un jour vous allez délier cette tresse et appuyer uniquement sur le fil autobiographique ? Est-ce que vous avez envie d'un roman sur l'histoire de vos parents par exemple ?
Absolument, figure-toi que tu touches un sujet qui est très, très sensible en ce moment car je travaille sur le prochain livre et j'aimerais que ce soit une sorte de miroir d'héritage. Donc encore une fois, je m'excuse pour ceux qui n'ont pas lu les livres et parce que peut-être je rentre un peu plus dans le détail et ça devient peut-être un peu nébuleux. Sur héritage, je parlais essentiellement du côté de mes parents, c'est-à-dire des Français, les bonnes foi qui au 19e siècle, en fuyant le phylloxéra, seraient partis avec un pied de vigne dans des navires en fer traverser l'Atlantique et l'ont replanté sur les robes de la cordillère pour redonner une sorte de deuxième vie, une renaissance à la vigne et se sont installés là pour créer des communautés de Français à l'étranger pendant presque un siècle jusqu'à la dictature de Pinochet où mon père est donc revenu en France où il a rencontré ma mère. Et je me permets, dans le livre que je suis en train d'écrire, de faire le pendant, c'est-à-dire de parler plutôt de la famille côté mère. Et il se trouve que le père de ma mère, Antonio Borja Romero, est un homme qui a été, au 3e jour de sa vie, a été abandonné sur les marches d'une église dans une rue qui aujourd'hui porte son nom. Il est devenu cardiologue et président du collège de médecine et il a été le fondateur de la première université de Maracaibo, qui est la deuxième ville la plus importante du Venezuela, qui aujourd'hui s'appelle Antonio Borja Romero, qui porte son nom avec un magnifique buste de lui à l'entrée, cet enfant des rues abandonné là, comme ça, non ? Qui devient eh bien, le plus grand défenseur, le plus grand guerrier de l'université, de l'étude. Et il s'est marié avec la première femme médecin de tout l'état de Zulia, qui est pratiquement la moitié du Venezuela, ma grand-mère, Ana María Rodríguez, qu'on appelait la doctora, simplement la doctora, tellement elle avait été la première. Donc il ne s'agit pas de... Et ensemble, alors, eh bien, ils ont eu ma mère, qui elle a eu une très belle carrière diplomatique, et en effet est arrivée en poste à Paris, en poste diplomatique, en tant qu'attachée culturelle, en défendant les valeurs vénézuéliennes, la poésie vénézuélienne, la peinture vénézuélienne, en France, et c'est ici où elle a rencontré mon père, et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, moi, je vous parle en français, je ne suis qu'un accident, non, de l'histoire, c'est, comme nous tous, on dirait. C'est ça. Et donc, en quelque sorte, je trouvais beau de pouvoir raconter ces 2 histoires. Pour revenir au Traboul, et là, encore une fois, on va vraiment dans le détail, mais il y a un personnage de Pedro Clavel, qui est celui qui introduit mon père dans le livre d'héritage dans les mouvements d'extrême gauche. Et c'est ce Pedro Clavel qui, justement, est ce guerriero que j'aimerais bien développer 10 ans avant au Venezuela et qui aurait fait le voyage. Donc, bueno, comme quoi tout ceci se joue un peu.
Au-delà du documentaire, de la fiction, des aspects biographiques, il y a aussi dans vos romans des présences plus fantasmées, plus fantomatiques. Quelle est la place de ces apparitions dans votre travail? Et vous revendiquez-vous du courant du réalisme magique qui, pour le dire vite, souhaite élargir le réel avec des éléments irrationnels?
Exactement. Eh bien, sans doute, oui. Heureusement, le réalisme magique n'est pas le privilège des auteurs latino-américains. Je viens d'une culture qui a une facilité de porosité entre le surnaturel et le naturel. Peut-être parce que c'est une tradition qui passe beaucoup par l'oralité. Et donc, fatalement, dans l'oralité, on peut se permettre de temps en temps des libertés, des luxes et certains coins d'ombre dans lesquels la magie a pu s'immiscer. Mais encore une fois, l'Amérique latine n'est pas du tout le seul à détenir ça, puisqu'on retrouve énormément dans toute la littérature animiste africaine, beaucoup de réalisme magique, mais on le retrouve également avec les Russes, avec les Japonais. Et c'est quelque chose qui m'avait énormément intéressé, de voir d'où pouvait venir cette espèce de fascination pour la magie. Si on imagine que lorsque les Espagnols, les Français, les Hollandais, les Portugais sont arrivés dans les caravelles en 1492 sur les bords del Delta Macuro au Venezuela, ils ont apporté avec eux le génocide, ils ont apporté avec eux des maladies, ils ont apporté avec eux le concept du suicide, qui n'existait pas de l'autre côté de l'Atlantique. Mais ils ont aussi apporté avec eux un héritage médiéval qu'ils avaient dans leur continent et qui faisait partie de leur construction sociale. Eux, ils avaient lu les histoires d'Homère, dans lesquelles il y avait des sirènes, dans lesquelles il y avait des géants. Eux, ils avaient lu le Nouveau Testament, dans lequel des hommes pouvaient vivre pendant 7 siècles. Eux, ils avaient également appris, par rapport aux alchimistes de l'époque, comme Pic de la Mirandole, qu'on pouvait rajeunir la matière et de passer du plomb en or. Et tout ça, ils le portaient dans leur cœur. En arrivant en Amérique latine, eh bien, ils ne sont pas seulement venus découvrir un continent, ils sont venus également confirmer des théologies qu'ils avaient hier et les replanter dans une terre qui était nouvelle, puisque c'était ce qu'ils portaient en eux. Alors, ils ont dit qu'ils avaient vu en Amérique latine la fontaine de la jeunesse, où quelqu'un entre vieux et sort jeune. Mais c'est juste une métaphore des alchimistes qui eux aussi rajeunissent la matière. Ils ont dit qu'il y avait quelque part le pays des Amazones, un système matriarcal dans lequel les femmes se coupaient le sein droit pour mieux tirer l'arc. Mais ça, on le retrouve dans Homère, puisqu'il cherche déjà la reine des Amazones. Ils avaient imaginé des nations de géants qu'on retrouve en Patagonie. La Patagonia, pata veut dire pied, gong, non, et le suffixe pour grand. Et le Patagon, c'est le grand pied. La Patagonia, c'est les nations de géants où on disait qu'ils avaient croisé des indigènes qui faisaient la taille d'un chêne. Mais les nations de géants, on le retrouve dans les sagas islandaises, par exemple, du XIIe siècle. Eux, ils avaient lu ça. Lorsqu'ils partent, ils tombent juste plus ou moins à une époque où Gutenberg a déjà inventé l'imprimerie. C'est-à-dire que tout cet imaginaire va à une vitesse folle. Autrefois, il fallait des scribes qui passaient des mois pour pouvoir faire un manuscrit et juste certaines personnes pouvaient le lire. Tout à coup, l'imprimerie arrive et c'est une sorte de ramification, une vitesse, une urgence qui va si vite que tous les marins, tous les matelots, plus ou moins, connaissaient ces histoires. Ils arrivent en Amérique latine et ils les revoient. Ça faisait des années qu'on cherchait le paradis, quelque part, qu'on essayait de le mettre ici et là, aux Moluques, à Ceylan, au Bangladesh. Et tout à coup, on arrive en Amérique latine, on dit « Ah, voilà !» Voici donc les 4 fleuves qu'on retrouve dans l'Éden. Eh bien, c'est le Magdalena, c'est l'Orinoco, c'est l'Amazona et c'est le Rio de la Plata. Finalement, Ève n'était pas blanche, elle ne croquait pas une pomme. Et on retrouve des textes d'Antonio de León qui disent que Ève avait la matité d'une indienne et que ce n'est pas une pomme, c'est une goyave. Et il y a une sorte de fascination comme ça dans toute l'Amérique latine qui fait qu'immédiatement on se dit « El Nuevo Mundo ». Voici enfin tout ce qu'on a toujours attendu, qui est le monde des possibles. Là sont restés les Espagnols, pendant 4-5 siècles, ont imposé leur imaginaire, plus tous les syncrétismes avec la traite négrière qui a ramené l'animisme et qui a donné aussi la santería, qui a donné la magie noire, qui a donné les sorcelleries et qui a donné les Maria Lioncero, toutes les ramifications fabuleuses des saints, des esprits. Tout ça, ça s'est mélangé dans une sorte de creuset délicieux et fou. Les indépendances arrivent, début 19e siècle. On commence à reprendre un petit peu, non seulement des identités et des souverainetés, mais également une littérature ou des contes, des fables, enfin un mouvement indigéniste, régionaliste, dans lequel on essaye de se séparer de l'Espagne impériale pour pouvoir reprendre un petit peu nos couleurs. Mais nos couleurs étaient déjà complètement mélangées avec celles justement de ces imaginaires collectifs européens. Et tout ceci ensemble a donné le boom latino-américain et le réalisme magique. Mais ce n'est pas une invention de notre part, c'est une sorte de réponse délicieuse 5 siècles après la conquête espagnole.
Alors on l'entend depuis le début de cette masterclass, Miguel Bonnefoy, vous êtes un raconteur d'histoire. Vous savez, dès les scènes d'ouverture de vos romans, nous plonger, nous lecteurs, comme un conteur, dans une histoire que l'on pressent pleine d'aventures et de péripéties. Je me permets de lire juste les premières phrases de votre roman « Héritage ». Lazare Lonsonnier lisait dans son bain quand la nouvelle de la Première Guerre mondiale arriva jusqu'au Chili. À cette époque, il avait pris l'habitude de feuilleter le journal français à 12 000 km de distance dans une eau parfumée d'écorce de citron. Et plus tard, lorsqu'il revint du front avec une moitié de poumon, ayant perdu 2 frères dans les tranchées de la Marne, il ne put jamais réellement séparer l'odeur des agrumes et celle des obus. On a l'impression qu'il y a tout un monde déjà dans cette baignoire. Merci. Est-ce que, grâce à la fiction, grâce aux histoires que l'on se raconte, on peut approcher mieux ou de plus près une certaine vérité, selon vous ?
Ça me fait bien sûr penser à cette phrase de Balzac qui disait qu'un roman vaut 1000 livres d'histoire, puisque parfois, avec une image, avec une scène, parfois avec un personnage qui, lui, n'a pas existé, mais qui rassemble ou converge un petit peu toutes les caricatures, on peut donner beaucoup mieux le grain d'un ton. Et ça me fait penser, et pour m'éloigner de mes livres et de parler en général de la littérature, que je trouve tellement plus intéressante que le travail que je fais, ça me fait penser en effet à Stefan Zweig, on en parlait tout à l'heure, et à sa biographie de Casanova. Il y a cette très belle scène que peut-être vous connaissez, qui est le chapitre 2 de la biographie de Casanova de Stefan Zweig, qu'on appelle aujourd'hui le chevalier de Sengal, dans lequel il raconte tout simplement la scène de Casanova qui entre dans un théâtre italien pendant l'entracte, habillé magnifiquement de pourpoint comme ça, avec ses bagues, avec des colliers, avec des tabatières, en parlant un français qui est mêlé de mots vénitiens comme ça. Et tout à coup, tout le monde commence à dire « Mais qui est cet homme ? Qui est cet homme ? C'est que cet homme est beau !» Et il s'approche d'une loge, se met à parler, parle fort, parle de tous ses voyages. Tout le monde l'écoute, se met à dire qu'il vient d'une longue lignée de chevaliers, sort une tabatière et parle en effet du tabac qu'il a trouvé dans ses plus grands voyages. Et tout le monde applaudit ça, intéressé par cet homme. Et tout à coup, alors qu'on est à l'entracte et que les danseuses ont entendu le brouhaha, le tumulte de la salle, certaines penchent dans les coulisses et se regardent par le rideau pour pouvoir apercevoir cet homme, le profil de cet homme dont tout le monde parle. Et l'une reconnaît et dit « Mais c'est pas le chevalier de Sengal ? Ça, c'est Giacomo Casanova, c'est ce pirate, c'est ce flibustier. Hier encore, il était en train d'essayer de séduire ma sœur. Mais elle ne dira rien. » dit Stefan Zweig à la fin du chapitre, dans l'espoir de pouvoir passer la nuit avec lui. Cette scène n'a jamais existé, mais elle est si bien racontée par Stefan Zweig qu'elle finit par dépasser la réalité et finit par donner parfaitement la molécule fondamentale de la psychologie de Giacomo Casanova. En une scène, il parvient peut-être à rassembler ce que des pages et des pages de biographies aurait eu du mal à contourner. Au point qu'aujourd'hui, lorsque certaines personnes étudient la vie de Casanova, on retrouve bien sûr la scène du chevalier de Sengal comme s'il était vraiment arrivé. Et on lui dit, eh bien non, c'est une invention. Mais c'est si bien dit que ça en devient vrai. C'est vraiment le nain sur l'épaule du géant de l'histoire, qui finalement voit plus loin. Et en ce sens, je pense que la fiction peut parfois mieux dire la vérité que la vérité elle-même. Elle peut être plus réelle que le réel.
Et puisque vous êtes un raconteur d'histoire, vous vous intéressez aussi aux mythes, vous êtes un défenseur de mythes, vous allez même jusqu'à en réécrire certains dans le recueil de nouvelles Naufrage paru en 2020 aux éditions Rivage. Vous prenez des figures de la mythologie, Narcisse, Hadès, Icare, bien sûr, on va y revenir, et vous les lestez d'une biographie, d'une humanité. J'y ai vu, moi, une métaphore de l'écrivain. Est-ce que, selon vous, l'écrivain peut être un Icare heureux qui s'approche du soleil, tombe, se relève parfois, mais écrit toujours le récit de ses aventures?
Et oui, il y a quelque chose de ça. Toutefois, il y a une dimension chez Icare qui est celle de la rébellion, qui est celle de la révolte paternelle, puisque son père Dédale, alors qu'ils sont tous deux dans le labyrinthe, et c'est son père qui lui colle avec de la cire d'abeille les ailes pour qu'il puisse s'échapper du labyrinthe, et lui dit « ne t'approche pas trop du soleil parce que tu vas te brûler les ailes, mais ne va pas trop près de l'océan non plus parce que les plumes vont se gorger d'eau et tu vas te noyer. Reste dans cette marge. » Pas trop haut, pas trop bas. Reste juste dans cette marge, qui est la marge sociale. Et c'est peut-être ce que nous disent nos parents. Moi, je suis papa, et peut-être c'est, sans le vouloir, ce que je dis à mes filles, fais attention, sois pas dans l'excès, sois pas trop dans la retenue. Non, essaye d'être juste, dans le juste milieu. Mais ce que fait Icare est cette espèce de révolte paternelle, aller contre le père, le soleil paternel. Et si on garde cette idée de l'analogie entre l'écrivain et Icare, que j'aime beaucoup, ça voudrait dire qu'il y a derrière ces Icare écrivains un père contre lequel il faut se dresser. Et ça peut être des maîtres. On a tous nos maîtres. Derrière tout écrivain, il y a des grands maîtres et qu'on essaye à la fois de copier et à la fois de refuser. C'est en effet Hugo qui écrit « Je veux être Chateaubriand ou rien ». C'est Flaubert qui écrit sur les marges de son manuscrit « Se séparer le plus possible du père Goriot ». Avec cette espèce de fascination de non, pas trop près, car à force de s'approcher des idoles, la dorure vous en reste aux mains. Et ensuite on dit « Ah oui, tu as voulu faire ceci parce que tu as lu ça, etc. » Et naturellement qu'on vient de quelque part. Souvent, on me dit « Ah oui, il y a une sorte d'héritage Garcia Marquezien dans ce que tu fais. » Bien sûr, c'est un maître immense, à mon sens, indépassable. Mais lorsqu'on regarde, en effet, quand Garcia Marquez était enfant, il avait 14 ans, eh bien, il y a eu la publication, je pense, de Pedro Páramo, de Juan Rulfo. Et Garcia Marquez a lu Pedro Páramo et Juan Rulfo, où il y a un réalisme magique incroyable, bien avant lui, et a dû se dire « Ah, quel salaud, quel écrivain !» Mais également, c'est un grand lecteur de Faulkner, et il disait sans cesse « Je dois m'éloigner le plus possible de cet imaginaire faulknerien, parce que sinon je ne vais rien créer moi-même. » Et lorsqu'on regarde un petit peu en arrière, dans l'histoire de la littérature, eh bien, Virgile a inspiré Horace, Horace a inspiré Ovid, Ovid a inspiré Juvénal, Juvénal ensuite a inspiré d'autres qui sont venus, et on se rend compte que c'est finalement une sorte de grande succession des uns après les autres. L'autre jour, je relisais les Métamorphoses d'Ovide et je suis tombé sur la belle histoire de Pyram et Thisbé, une des plus belles histoires d'amour. Ils s'aiment tous les deux, ils sont jeunes, leur famille se déteste. Ils ne savent pas alors comment faire leur amour et peuvent parler par la fissure d'un mur qui les sépare. Ils se donnent un rendez-vous qui est manqué, puisque elle porte un châle blanc. Elle arrive un peu avant, voit un lion, prend peur. Le châle se prend au mûrier, le mûrier tache de rouge le châle et s'échappe. Lorsque Thisbé arrive, qu'est-ce qu'il voit? Le châle plein de sang et le lion au loin. Il comprend en effet qu'elle est morte, se suicide avec l'épée. Et lorsqu'elle finalement surgit, apparaît, le voit mort et se dit « Non, je ne peux pas vivre dans ce monde sans toi », prend l'épée et se suicide. J'imagine que ça vous évoque peut-être quelque chose. C'est ça. Même Shakespeare, en effet, a dû s'inspirer quelque part aussi, alors d'Ovid. Et Ovid lui-même n'a rien écrit d'autre que des réécritures de mythes et des métamorphoses qu'on trouve dans l'immense ventre de la mythologie gréco-latine. Heureusement qu'on est juste la conséquence de plus de 2000 ans d'histoire derrière nous. Et de la même manière qu'un corps est composé de millions de bactéries et de poussières d'étoiles, nos livres sont composés de tous les récits avant lui.
Et vos livres, ils ont reçu un accueil critique très bon. Vous avez été récompensé de nombreux prix. Les lecteurs vous suivent roman après roman. Comment vivez-vous la réception critique de votre travail ? Et vous sentez-vous dépossédé d'un livre quand vous le redécouvrez à travers les yeux des lecteurs ou des critiques ?
Pour être tout à fait honnête, j'insiste sur cette idée que les livres sont réellement imparfaits. J'ai encore beaucoup de choses à écrire ou j'ai l'impression d'avoir dans mon ventre encore beaucoup de choses à faire, à dire, à gestionner. Et ça me fait penser à une belle image de Jean Giono. Et il dit en effet que l'écrivain est comme un petit enfant qui est en train de construire une tour de pierre. Il est concentré sur sa structure narrative pour être sûr qu'une scène après l'autre, une phrase après l'autre, la tour de pierre ne tombe pas, la structure ne se rompt pas, la tour reste debout. Et il est tellement obnubilé et concentré sur cette tour de pierre qu'il ne voit pas une lumière qui illumine à côté cette tour et qui lance une ombre à côté. Et cette ombre est tellement plus grande, tellement plus vaste, tellement plus profonde, et c'est ça ce que voient les lecteurs d'un livre. Toi, tu as lu peut-être Héritage, et tu as lu un livre si différent que celui que moi j'ai écrit. Et heureusement que c'est comme ça. Et ça, c'est quelque chose que j'ai observé et que j'ai pu constater de rencontre en rencontre, de festival en festival, de salon en salon, de moments de dialogue avec des personnes intelligentes comme toi. Eh bien, j'ai pu observer en effet qu'il y avait une vision tout à fait différente de ce que j'avais voulu faire. C'est l'ombre du livre qui est projetée et que moi je ne vois vraiment pas. Si bien qu'il y a pas longtemps, une femme, je me souviens, m'avait dit « Tu vois, tous tes livres commencent par un bateau, par un navire. Est-ce que tu as le permis bateau ?» Elle m'avait demandé. Je lui ai dit « Non, pas du tout. » Mais je m'étais interrogé de ça parce que je n'ai pas du tout un lien particulier avec les bateaux. Et puis en y réfléchissant, eh bien, tu te dis « Ah, peut-être que comme j'ai grandi en Amérique latine, eh bien, on nous raconte toujours que notre histoire commence il y a 5 siècles avec un bateau qui est arrivé un jour sur nos côtes. Et alors là, on a découvert l'Amérique. Non ? Et sans eux, on n'aurait pas été découvert, heureusement. C'est là qu'ils sont arrivés. » Et donc tout à coup, tu te dis « Bah oui, toute histoire doit commencer avec un navire qui arrive. » Mais ça, c'est l'ombre des livres, que moi, bien sûr, je n'avais pas vu, puisque j'étais tout simplement concentré à être sûr qu'un caillou ne fait pas tomber toute la tour.
Nous sommes presque à la fin de cette masterclass. Peut-être une dernière question pour conclure cette rencontre. Miguel Bonnefoy, comment savez-vous qu'un livre est fini et qu'il faut passer au suivant ? Et aimeriez-vous retoucher une œuvre déjà écrite et l'avez-vous déjà fait ?
Mille fois. Absolument. Alors vraiment, je le dis très, très honnêtement, et ce n'est pas du tout démagogique de tenir ce discours. À mes yeux, un livre n'est jamais fini. Si bien que lorsqu'il part à l'imprimerie, à la fabrication, une heure plus tard, j'ai déjà envie de changer quelque chose. Et ce qui est beau en France, c'est qu'un livre a deux vies. Il a le grand format et il a le poche. Et moi, je ne vais pas m'amuser à ça parce que je ne prends pas du temps pour relire mes livres. Mais je pense en effet que si vous regardiez la différence entre le grand format et le poche, elles sont énormes. Il y a j'ai introduit des choses, j'ai coupé des petites choses ici et là et je me suis permis en effet des jeux de miroir pour pouvoir justement constituer cette espèce d'ensemble dont on parlait tout à l'heure. Heureusement qu'un livre n'est jamais terminé. Mais la meilleure correction n'est pas à faire sur le livre lui-même, et à faire sur le prochain livre, pour le rendre encore meilleur, et encore le prochain, et encore le prochain, encore le prochain, jusqu'à un jour arriver un livre parfait. J'espère que j'aurai l'élégance de mourir avant de l'écrire.
Rimbaud a confié à sa maman la relecture d'un de ses manuscrits, et puis visiblement elle était un petit peu perturbée parce qu'elle venait de lire, et elle lui a demandé « Mais qu'est-ce que tu as écrit ? Qu'est-ce que ça signifie ? Je ne comprends pas ce que tu viens d'écrire. » Et il lui a répondu « Ça dit ce que ça dit littérairement et dans tous les sens. » Alors je voulais vous remercier pour ce temps d'échange, Miguel Bonnefoy. Merci beaucoup, c'est la fin de cette masterclass. Merci.
Merci beaucoup, bravo.
C'était la masterclass de Miguel Bonnefoy avec Marie Sorbier, enregistrée à la bibliothèque François Mitterrand. Attachée de production Corinne Amar, coordination Christine Bernard, prise de son Hervé Dubreuil, coordination technique Francesca Fossati, réalisation Alexandra Malka.